Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Ta gueule.
J'en viendrai pour toi, Bennett.
On t'a sonné, toi?
Pour moi, il y a une déclaration de guerre.
Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils.
On a frôlé la catastrophe, hein.
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule.
Bien joué, trou de balle.
Merci, sœur.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran, formule What the fuck. Aujourd'hui, on parle slasher, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de mon chouchou, le seul et l'unique Slumber Party Massacre.
The night of the Slumber Party Massacre. Close your eyes for a second and sleep forever.
Slumber Party Massacre, c'est l'histoire de Trish, une jeune lycéenne qui se retrouve seule à la maison un soir d'été. Elle et sa bande de copines décident de faire une soirée pyjama entre filles, une slumber party. Seulement, elle n'avait pas prévu que ce soir-là, Russ Thorne, un tueur en série, s'est évadé de son hôpital psychiatrique et qu'il n'a qu'une idée en tête, les assassiner toutes jusqu'à la dernière à l'aide de sa perceuse géante.
Notre titre principal, c'est l'évasion de Russ Thorne, l'assassin qui, en 1969, a sauvagement massacré 5 personnes à Venice, en Californie.
L'histoire de la conception de ce film débute en 1980. Le cinéma d'horreur n'est plus le même depuis la révélation Halloween, 2 ans plus tôt, en 1978. Vendredi 13 est également passé par là, faisant tourner la tête de tous les producteurs indépendants, mais aussi des plus grands studios. Il faut dire qu'avec 1,5 million de dollars de budget, Vendredi 13 rapporte 60 millions sans compter les 17 millions en location VHS. Une recette qui semble faire fureur et qui fait fantasmer tous les producteurs avides de surfer sur cette vague qu'est le slasher. Rien qu'en 1980, une vingtaine de slashers sortent au cinéma. C'est après avoir assisté à cette frénésie de l'horreur que Rita Mae Brown se lance dans l'écriture d'une parodie du genre du slasher intitulée Don't Open the Door.
Annette, on n'a plus une minute à perdre.
Monsieur Constant restera chez lui tout le week-end, il veillera sur toi.
Merci, Monsieur Constant.
Il n'y a pas de quoi, soyez tranquille, il ne lui arrivera rien.
Dans ce script, écrit presque 20 ans avant Scary Movie et Me Too, elle dénonce l'hypersexualisation de la femme dans le slasher, la bêtise des scénarios et surtout la fameuse recette consistant à montrer de jeunes adultes s'adonner au plaisir de la chair avant de se la faire trancher. Pour sa parodie, elle veut se moquer des codes, un tueur masculiniste au possible et dont l'arme phallique sera omniprésente. Cette fameuse perceuse géante devient la mascotte du film dès l'écriture du scénario. Quelques mots sur la scénariste. Rita Brown est une militante féministe, auteure de plusieurs romans et scénariste. Elle cherche à vendre son scénario et se met alors en quête d'un producteur. Elle fait la rencontre de Roger Corman, le roi de la série B, un ponte du milieu qui a tout de même lancé la carrière de grands noms du cinéma tels que Scorsese ou Coppola, et qui est responsable de la plupart des séries B des années 60 aux années 80. Dans l'urgence de cette slasher mania, Corman achète le script. Immédiatement, il lisse l'aspect féministe, pire, il se sert du script pour en faire un modèle du slasher pour jeunes adolescents en chaleur. Noyé dans la masse de scénarios de slasher, Don't Open the Door se retrouve en stand-by. L'année suivante, en 1981, Amy Holden Jones, une jeune monteuse, souhaite passer derrière la caméra et réaliser son premier long métrage. Elle n'a alors monté que 4 longs métrages, dont Corvette Summer, une comédie d'aventure avec Mark Hamill. Elle a aussi travaillé sur Taxi Driver après que Martin Scorsese l'ait repéré à un festival où il faisait partie du jury. Et elle a monté Hollywood Boulevard, le premier film de Joe Dante.
T'as un problème ou quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? De la marijuana? Pure à 100%, de la fabrication maison.
Oh, bonsoir, Monsieur Constant.
Bon amusement.
Pour se lancer dans la réalisation, elle demande conseil à Frances Doel, une scénariste proche de Roger Corman. Par le biais de Frances, Corman fait parvenir à Amy Holden Jones une pile de scripts. Elle choisit alors Don't Open the Door, toujours en stand-by, et décide de s'en inspirer pour tourner les 3 premières scènes. Elle part alors avec Michael Chapman, son mari, un équipement vidéo fourni par Joe Dante et des acteurs de l'Université de Californie pour tourner ses quelques scènes chez elle pour un budget de 1000 dollars. Ce petit film lui sert de bande démo pour appuyer sa candidature auprès de Corman. Devant le résultat, Corman est conquis et accepte de financer le film. Amy Jones raconte elle-même l'anecdote en interview. Donc j'ai pris ce script qui dormait depuis quelque temps sur l'étagère et qui s'appelait Don't Open the Door, écrit par Rita Mae Brown. Je l'ai lu et dans le prologue il y avait une scène de suspense, une scène de dialogue et une scène d'action. Alors je me suis dit, si je tourne ces scènes, il verra que je suis capable de faire ces trois choses. Donc je me suis mis au travail avec la caméra de Joe Dante. Il m'a donné des musiques d'un de ses films, Hurlement, et nous avons appelé Roger pour lui dire de regarder notre bande démo. Il a demandé combien ça vous a coûté. Et je lui ai dit, ça m'a coûté dans les $1000. Et il a répondu, toi, t'as un avenir dans le business. Mais le financement de Corman vient avec son lot de compromis. Premièrement, il tient à changer le titre en Sleepless Night. Selon lui, ce titre inspirera un thriller classe plutôt qu'un slasher bas de gamme. Ensuite, il donne un cahier des charges à Amit Jones qui relève plus d'un shooting Playboy que d'un tournage de film d'horreur. Le film devra s'ouvrir sur une scène de douche dans les vestiaires des filles. Il veut que le public masculin soit directement confronté aux poitrines et aux corps nus de ces femmes. Tout le ton féministe du film est gommé, l'aspect parodique est lissé. À cette époque, Amit Jones n'a jamais vu un slasher. Son rêve de devenir réalisatrice l'emporte sur sa méconnaissance du genre. Au même moment, elle est contactée pour participer au montage d'E.T. l'extraterrestre, le nouveau film de Steven Spielberg. Elle refuse et se lance dans l'aventure Slumber Party Massacre. Elle l'explique elle-même en interview. À ce moment-là, j'étais censé monter E.T. parce que j'étais plutôt bonne monteuse. Et donc j'ai eu le choix entre réaliser ce film ou monter celui de Spielberg. J'ai fait un saut de la foi et je me suis mise à réécrire Slumber Party Massacre. Et j'ai passé un mois de pré-production en tant que réalisatrice plutôt qu'en tant que monteuse d'E.T. Le budget accordé au film est de $220,000. Amit Jones trouve les deux décors principaux du film, deux maisons sur Mountain View Avenue à Los Angeles. Elle habite à quelques kilomètres de là et le lieu de tournage est à proximité de la maison de Corman et des locaux de la New World Pictures, sa société de production. Le casting commence, la règle est simple, il faut de jolies filles, plutôt bien formées, et un acteur capable d'interpréter un tueur psychopathe. Une fine équipe de jeunes acteurs est alors engagée. Parmi eux, la future Scream Queen Brynn Stevens, qui d'ailleurs sera figurante dans Body Double de De Palma. Je profite de cette info pour indiquer que De Palma dans Body Double utilise également un tueur à la perceuse, dans la même optique phallique. La question qui demeure toujours en moi, est-ce une référence à Slumber Party Massacre ou simplement une coïncidence scénaristique ? Parenthèse close, passons au tournage. Nous sommes en plein été 81. Le tournage est limité à 3 semaines. L'une des premières séquences, et pas des moindres, pose déjà problème. En effet, les jeunes actrices refusent de se mettre nues pour la scène de la douche. Corman fait pression sur Amit Jones, qui doit obligatoirement cocher cette case pour le film. Sur le tournage, le ton monte. Si Brynn Stevens n'est absolument pas gênée par la nudité, il n'en est rien pour les autres actrices.
Tu veux du shampoing, Tracy ?
Non, je me suis déjà lavé les cheveux ce matin. Tu regardes parfois le basketball à la télé ?
Oh oui, j'adore regarder ces grands gaillards. Ils sont si sexy.
Certaines vont malheureusement comprendre que cette étape fait partie du jeu. Par peur de voir leur poitrine à l'écran, certaines actrices mettent du scotch sur leurs seins afin de rendre l'exploitation d'un plan poitrine impossible au montage. C'est pourquoi on voit beaucoup de femmes de dos dans cette scène. Amy va obéir aux ordres de Corman, comme elle l'explique en interview. La nudité était pour lui plus importante que le sexe. C'est ce qui faisait vendre. La scène de la douche est un peu gênante à regarder, car elle n'est pas réaliste. Ça sonne comme un fantasme d'homme. Mais je l'ai faite. Il la voulait, il l'a eue, c'est fait. Mais si les figurantes peuvent se permettre l'astuce du scotch sur les seins, Debra Delizo, une des actrices principales dont c'est le premier rôle, n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Terrifiée par l'idée de se mettre nue, elle est aidée par une amie à elle, présente sur le tournage, qui, après l'accord d'Amy Jones, va jouer le jeu et se mettre nue pour encourager son amie. Debra Delizo se rappelle avoir détesté le regard de l'équipe technique, composée essentiellement d'hommes. Mais le professionnalisme et la rigueur d'Amit Jones permet à l'équipe de surmonter cette épreuve qui va renforcer au fur et à mesure du tournage les liens entre les acteurs.
Pas mal.
Berk.
Tu crois que je sais pas que tu branlais les garçons à l'école ?
Jamais j'ai fait ça, espèce de menteuse !
Brynn Stevens, qui a fait très bonne impression lors des auditions, doit malheureusement partir rapidement pour un travail en tant que modèle. Le premier rôle lui passe alors sous le nez et elle doit condenser sa prestation en seulement quelques jours de tournage. Elle explique basiquement s'être mise nue, avoir pris une douche, puis s'être fait tuer. Une apparition succincte donc, mais remarquée, puisqu'elle deviendra par la suite une des rares actrices du film à faire carrière, du moins dans le genre. Elle se rappelle avoir passé 45 minutes dans un parking à hurler avec l'ingénieur du son pour obtenir le cri parfait. Cette expérience sera décisive pour elle, et elle s'amuse encore à la raconter en interview. C'était mon premier vrai rôle dans un film. J'ai vu une audition où l'on demandait de jouer des jolies filles nues se faisant tuer. Je me suis dit, ouais, c'est dans mes cordes. Le tournage se poursuit, et Roger Corman passe régulièrement sur le plateau. Chaque fois que Corman passe, il impose de nouvelles scènes avec leur lot de nudité. Les actrices sont de plus en plus excédées par les demandes du producteur, qui semble ne voir dans ce film qu'une opportunité d'attirer les jeunes hommes en quête de sexe et de violence. Amy Holden-Jones fait alors tampon lorsque les actrices refusent de montrer leur poitrine, et va même jusqu'à proposer de payer de sa poche n'importe quelle femme sur le plateau pour qu'elle double la poitrine de Gina Marie lors d'une scène dans la voiture avec son petit ami. Michelle Michael, une des actrices principales, n'a aucun problème avec la nudité et accepte volontiers.
C'est un rêve, on va se réveiller.
C'est le jardin de l'Éden, ici.
Un acteur pose alors problème. Originalement auditionné pour le rôle de David Contant, le voisin, Michael Villela se voit offrir le rôle du tueur. C'est sa première expérience en tant que comédien, et il décide de se plonger entièrement dans son rôle. Sauf que peu à peu, il semble s'y oublier, au point de ne plus parler à personne, s'isoler et effrayer les membres de l'équipe. Bryn Stevens se souvient encore de cette expérience. Michael Villela s'asseyait dans son coin à la pause. Il ne se mélangeait pas avec le reste de l'équipe. Et une fois, je l'ai vu mettre de la vaseline sur sa perceuse. Il m'effrayait vraiment et j'ai demandé aux autres, qu'est-ce qu'il fait lui? Et on m'a dit, oh, c'est sa façon de rentrer dans le personnage. Michael Villela confessera plus tard regretter son comportement et avoir eu des doutes sur sa santé mentale tout au long du tournage. Pour son personnage, il s'inspire de la gestuelle du pan et décide de développer toute une backstory pour se mettre dans sa peau. Il invente ainsi une histoire et fait grandir le personnage en lui au point de ne plus savoir qui est qui. Il se prend même de passion pour le roman Helter Skelter qui raconte l'histoire des meurtres de Charles Manson. L'acteur raconte sa méthode en interview.
I would not talk to anybody on set.
Je ne parlais à personne sur le tournage, surtout pas aux filles que je n'avais pas encore tuées. Je devais d'abord les tuer pour leur parler. Mais avant ça, je me cachais derrière les buissons, je les observais, je voulais les terrifier. Le midi, je les espionnais en cachette. Et lorsque la scène arrivait, elles étaient réellement apeurées. Donc ça a marché. Elles avaient peur de moi sur le tournage. Malgré un acteur un peu trop dans son rôle, le tournage se poursuit sans encombre. Certaines scènes sont plus complexes que d'autres, notamment la scène où un cadavre tombe du frigo, mais Debra Delizo, qui fut gymnaste, a réussi la prouesse de se faufiler dans ce frigo et de tenir la position pour la scène. Côté maquillage, du sirop de sucre et du colorant rouge servira de faux sang à l'équipe. Quelques effets sont concoctés avec les moyens du bord, notamment la fameuse scène du livreur de pizza dont les yeux sont arrachés par Russ Thorne, le dangereux tueur en série.
T'as combien ?
4 dollars.
J'en prends un, ça paiera le pourboire, ok ?
Ok.
Pizza !
La fin de ce massacre est symbolisée par un coup de machette contre la perceuse du tueur, un symbole que Michael Villela, l'acteur du tueur, n'a pas oublié. Vous savez, quand la perceuse se fait couper en deux, moi je pensais vraiment à mon pénis. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me coupait le pénis. Une fois le film terminé, il part immédiatement sur le banc de montage de Sean Foley, qui est accompagné de Wendy Green Brickmont, monteuse du célèbre Annie Hall pour Woody Allen. Celle-ci ne sera d'ailleurs pas créditée au montage. L'équipe montage arrive alors péniblement à 70 minutes, le film étant à l'origine prévu pour durer 90 minutes, standard de l'époque. Certaines scènes ont été coupées, notamment une scène où les filles utilisent une planche de Ouija et où les lettres forment le mot « Death ». Face à ce résultat, Roger Corman offre un budget supplémentaire à Amy Jones, notamment pour faire des reshoots et dynamiser la fin du film. Elle se plonge alors dans l'univers de Taxi Driver de Scorsese, sur lequel elle a travaillé, et qu'elle regarde en boucle tout en réécrivant la fin de Slumber Party Massacre. Elle ajoute cette scène de piscine qui vient clore la folie meurtrière de Russ Thorne. Cette scène posera d'ailleurs problème à Michael Villela, l'acteur du tueur, qui ne sait pas nager et a horreur de l'eau. L'acteur l'explique lui-même en interview.
That was the most difficult thing for me to do.
C'était pour moi le plus dur à faire. parce que je ne suis pas bon nageur et je déteste l'eau. Et il faisait tellement froid. Et à chaque fois, je devais retourner dans la piscine. Et je suis censé rester là-dedans, sans bouger et flotter. Et tout ce que je voulais dire, c'était « Sortez-moi de là, sortez-moi de là !»
Get me out of here, get me out of here, you know, this is what I wanted to do.
Son jeu sera légèrement modifié au montage, notamment un moment où il hurle « Maman », une improvisation que Amy Jones juge trop empathique pour le personnage. Le film repasse en montage et il faut désormais y ajouter une musique. Amy Holden Jones propose alors à son frère, Ralph Jones, de composer le score du film. Celui-ci compose l'entièreté de la BO sur un petit synthé Casio MT40. Il en ressort une BO très simpliste, mais particulièrement efficace. L'ouverture du film se fera sur un morceau du génialissime Pino Donaggio, issu de la bande originale de Piranha de Joe Dante. Le film passe alors à l'étape des projections test. Celle-ci se déroule sur Hollywood Boulevard. Pendant la projection, le public devient fou. Les réactions sont disproportionnées et inquiètent Amy Holden Jones qui le raconte en interview.
And we got a full audience. I don't know how.
On a eu un public complet. Je ne sais pas comment. Et ils sont devenus fous. Ils sont vraiment devenus fous. Dès le début du film, ils hurlaient, ils riaient, ils faisaient des bruits de perceuse derrière moi. Et évidemment, je venais de refuser E.T. pour faire ce film. Et une partie de moi se disait, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je suis allé voir Roger Corman dans le hall, et je lui ai dit, mon Dieu Roger, qu'avons-nous fait? Et il m'a répondu, on vient de faire la meilleure preview de l'histoire de New World Pictures. Voilà ce qu'on a fait. Après cette impressionnante projection test, Roger Corman décide alors de prendre en charge la conception de l'affiche et invite uniquement les actrices à forte poitrine, toujours dans le but d'attirer une audience masculine. André Honori sera la seule actrice du film à figurer sur le poster. La fameuse blonde allongée sur l'affiche est en réalité Gillian Kessner, qui n'est même pas dans le film. Cette affiche marquera les spectateurs, peut-être plus que le film lui-même, tant elle reflète l'essence même du slasher. Le titre est alors modifié dans ce sens et devient The Slumber Party Massacre.
Je vous en supplie, ne me tuez pas.
Je vous aime.
Oh, pitié. Je ne vous ai rien fait. Ne me tuez pas.
Il faut savoir aimer vraiment pour pouvoir tuer.
Le 12 novembre 1982, le film sort officiellement en salle aux États-Unis. En France, il sortira sous le titre « Fête sanglante » et sera interdit aux moins de 18 ans. Avec 3,6 millions de dollars au box-office, Slumber Party Massacre est plutôt une franche réussite. Si le public semble satisfait, la critique grince des dents. Le film est jugé de clone d'Halloween au rabais, antiféministe et ultra-violent. Amy Holden Jones subit alors une vague de haine, la qualifiant de traître à sa cause. Elle ne se démonte pas et affirme que cela ne gêne personne quand des réalisateurs masculins font la même chose qu'elle. Mais déjà à l'époque, certains critiques reconnaissent en Slumber une œuvre satirique et critique sur son propre genre. Ce qui était l'idée de départ de sa scénariste Rita Mae Brown. Le succès en salle et surtout en VHS permet d'engranger deux suites. Les suites, loin du niveau du premier, sont des slashers assez loufoques et ayant peu de lien avec l'œuvre originale. On aura également le droit à un remake ignoble qui verra le jour en 2021. Amy Holden Jones est plutôt fière de son travail. Elle a su apporter sa touche dans un film qui partait dès le départ sur un chemin glissant. Et elle a surtout réussi à cocher toutes les cases du slasher. La nudité à outrance, la violence, avec un body count de 12 meurtres, et surtout un rythme particulièrement soutenu qui, à mon sens, permet de faire tenir le film. Au fil du temps, Slumber Party Massacre s'est fait un nom dans le milieu du slasher. S'il n'est pas célébré comme le sont Les Griffes de la Nuit, Halloween ou Scream, Slumber a su apporter ce quelque chose en plus qui lui a permis de se démarquer du lot. Mon attachement pour Slumber Party Massacre dépasse l'entendement. Lorsque je découvre le film, je suis déjà passionné de cinéma et de slasher depuis longtemps. Slumber n'est donc pas pour moi une porte d'entrée pour le genre. Et pourtant, je me revois encore en pleine nuit, période Covid-confinement, flasher sur cette affiche et lancer le film. J'ai été pris au piège de ce petit slasher sans grandes aspirations et il s'est immédiatement placé très haut dans mon estime cinématographique. Que ce soit la musique, le côté kitsch, le ton particulièrement satirique sans assumer la parodie à 100%, ou même tout simplement cette VF, tous ces éléments ont fait de Slumber Party Massacre un de mes films préférés. C'est pour moi une franche réussite. Un slasher malin qui arrive relativement tôt dans l'aventure du genre et qui se permet déjà de le critiquer. Slumber est pour moi un incontournable, je dirais même plus un prototype du slasher au même titre qu'Halloween. Ce visionnage de Slumber Party Massacre m'a marqué à vie, au point de m'inspirer mon premier court-métrage Pizza Time, dont le titre est une référence induite au film. Bon alors, dit comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous vous attendez peut-être à un chef-d'œuvre. Donc je me dois de réguler un petit peu vos attentes. On est loin du niveau de Carpenter ou de Craven dans ses bons jours. Mais le côté jouissif, voire régressif de ce film, mi-fauché, mi-brillant, n'a de cesse de raviver la flamme du slasher dans mon cœur de cinéphile. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran en formule What the Fuck. Tous nos autres épisodes sont disponibles sur YouTube et les plateformes de podcast. A très vite, et si vous n'avez pas vu Slumber, foncez-y.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.